Christelle Brunet a donné pouvoir à Christophe Moutot. Martial Robert a donné pouvoir à Michel Vernier. Marilyn Quinda à Claire Maury. Jonathan Weinberg à Bernadette au Petit. Faouzia Oumadi à Bernadette au Petit. Éric Correa à Benoît Lascou. Sabine Adrien à François Vallès. Et Damien Monteil à Jean-Baptiste Contarin. Je n'ai oublié personne ? Thierry Delettre. Et Patrick Dubois vient. On a... mais c'est pas grave, on va le noter, Benoît. Donc, je note les deux là qui nous manquent. Alors, monsieur Delettre à Corinne et monsieur Dubois à Benoît Lascou. Est-ce qu'on a pensé à tout le monde là ? Oui ? Bien. Alors, je vais vous demander, alors déjà, on va désigner un secrétaire de séance. Monsieur Contarin était d'accord ? Merci. Donc, monsieur Contarin, est-ce que vous avez tous reçu le procès-verbal du conseil municipal du 11 avril ? Tout le monde l'a lu. Est-ce qu'il y a des demandes de rectification ou des observations par rapport à ce compte-rendu ? Bien, donc je le mets au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions. Merci. Bien, alors en introduction de ce conseil municipal, je voulais juste adresser un petit mot de félicitations donc à l'entente sportive guérétoise qui, à l'issue d'une magnifique saison, monte en National 3. Alors c'est bien sûr une fierté pour notre ville d'avoir un club à ce niveau. Et je pense que l'entente a aussi trouvé son public, d'après ce qu'on a vu samedi, et j'espère qu'elle saura le fidéliser. Alors on aura à statuer tous ensemble sur nos engagements aux côtés du club, et j'espère que de nombreux sponsors nous accompagneront pour la saison prochaine. Alors je voulais aussi saluer en deux mots le conseil municipal d'enfants, qui a beaucoup travaillé, alors avec un mandat un petit peu écourté, par la crise sanitaire, mais donc ils ont fait un travail remarquable. Donc je parlais du conseil municipal d'enfants, et donc je vous proposerai, si vous le souhaitez, d'accorder à ces conseillers une heure de notre temps en ouverture du conseil municipal du 27 juin pour qu'ils puissent nous présenter rapidement leurs travaux et leurs projets. Alors, est-ce que vous en êtes d'accord qu'ils nous prennent un petit peu de temps, mais c'est le dernier conseil municipal de l'année. Ensuite, il y en a une partie qui va partir. Donc, je pense qu'ils méritent bien qu'on puisse leur faire leur donner ce petit laps de temps. Est-ce que vous êtes tous d'accord? On peut considérer que... Bien, donc on les invitera tout de suite en début de séance au conseil municipal prochain. Voilà. Monsieur Vallès, allez-y, je vous en prie.
Alors, en préambule du conseil municipal, il me semblait utile, nécessaire de revenir sur la journée de samedi, parce qu'il nous faut aussi parler de temps en temps dans ce conseil de ce qui marche sur notre commune et pas forcément des sujets abscons tels que le budget. D'abord, comme vous le signalez, Madame le maire, le foot. Parce que le club de l'entente sportive guérétoise était ce samedi la tête de pont du milieu sportif de notre ville, qui était l'expression de la vitalité de notre milieu associatif, et qu'il est indispensable, que les associations sont indispensables, sans associatif, pas de vie communale. Au plan sportif et footballistique, pour évaluer le résultat qu'est la montée en National 3 de ce club, il faut savoir que ce sera le seul club du Limousin qui évolue à ce niveau. Ni Limoges, ni Brive, ni Tulle, ni d'autres. Je disais aussi ce résultat parce que ce n'est pas un miracle, c'est la conséquence d'un travail, du travail de longtemps, avec une stratégie continuellement appliquée par les différents présidents, formation des acteurs, formation des éducateurs, formation des jeunes, bien aidé par le soutien de la Fédération et de l'Éducation nationale, dont on notera d'ailleurs les bons résultats des classes foot du Collège Marouzeau, du lycée Favard en championnat de France UNSS, finale nationale à plusieurs reprises. Ce résultat est donc le fruit de la formation et de la construction d'un club, mais c'est aussi l'implication de la mairie avec la mise en place d'un terrain synthétique, par exemple. Et c'est aussi l'exemple d'un travail du territoire opiniâtre de soutien à ce genre d'institution. Donc le résultat, c'est la récompense d'un groupe, une équipe dont les trois quarts des joueurs sont issus directement du club, de l'école de foot avec ses 350 jeunes qui s'entraînent la semaine, de ses 20 équipes qui jouent le week-end sur tout le territoire de la Nouvelle-Aquitaine en portant haut les couleurs de la ville de Guéret. C'est donc 350 jeunes qui s'éduquent, qui se socialisent, qui vivent le partage et la confrontation et qui apprennent à gérer la frustration, voire la colère. Le sport fait grandir. Et je voudrais, au travers de M. Charan Mvouili, capitaine de l'équipe, membre de notre assemblée, saluer ce club de ma ville et avoir une énorme pensée pour tous ces bénévoles. Merci Charan. Mais avant ce match, ce samedi, à Fayol, sous l'égide du conseil municipal des enfants, avec des services de la mairie et quelques parents plus que bienvenus, il y avait la fête des jeux. Formidable moment, avec des enfants et des parents venus en nombre et même en très grand nombre. J'étais très très surpris, moi, de ce monde-là, étant donné qu'il y avait le beau temps et que je pensais qu'il ne serait pas venu. Il y avait d'autres choses à faire. Une queue monstre pour accéder au maquillage, une maison gonflable qui débordait, des qui se chicaillaient pour essayer les fauteuils roulants du handi basket, des geeks qui testaient la plateforme de jeu construite à la quincaillerie, des papas qui lisaient le journal dans un coin de livre achalandé par la BMI, le tout sous l'œil attendri des mamans. J'ai même vu, pour revenir au paragraphe d'avant, un ancien footeux qui cherchait sa petite sœur. Très belle réussite que cet après-midi de jeu. Au-delà de cette effervescence bon enfant, c'est la diversité qui sautait aux yeux. Il y avait dans cet espace très circonscrit, finalement, de l'espace Fayol, tout ce qui est et tout ce qui fera Guéret dans sa diversité et ses différences. Mais visiblement, les gamins, eux, s'en foutaient, trop absorbés par attraper les bulles à savon. Et c'est peut-être ça, l'inclusion. Il faudra, Madame la maire, remercier les agents de la ville, notamment Emmanuel et Karim, qui ont animé cette journée, qui fut très longue pour eux. Et c'est d'ailleurs là qu'on voit que l'animation est un métier. Tout ce trop long préambule pour dire que l'action de ce conseil municipal, avec ses différences, doit inscrire ses stratégies dans le temps long, le passé et l'avenir. Il se doit de favoriser, voire même de provoquer la coordination de tous les acteurs du territoire vers un objectif. Que ce travail d'inclusion qui est dialectique par nature ne peut se faire sans moyens. Et je veux souligner par là que plutôt que financer des études, l'État pourrait allouer des fonds plus substantiels, sans chicaner les centimes, dans la confiance des élus municipaux. Merci de m'avoir écouté. Permettez-moi de vous signaler, Madame le maire, que ce samedi, sur notre ville, il a fait très beau.
Merci. Y a-t-il d'autres interventions avant que nous commencions? Non? Alors, je vous propose de passer au premier rapport, donc, qui est l'adhésion à l'opération Massif Central 2022. Alors, Clermont-Ferrand s'est officiellement portée candidate à la sélection de la capitale européenne de la culture 2028. Avec, et c'est sa spécificité, comme périmètre élargi, le Massif Central. Tout ça pour s'inscrire donc dans l'environnement culturel qui forge son histoire et son identité, à savoir donc celui du Massif Central. C'est tout à fait original comme démarche, puisque les autres villes candidates pour la France ne candidatent que sur la périphérie de leur ville. Et c'est peut-être ce qui va pouvoir faire la différence en faveur de Clermont-Ferrand. Donc M. Bianchi, le maire de Clermont-Ferrand, a proposé à la Creuse d'être inclus dans ce périmètre. Donc je vous propose aujourd'hui qu'on puisse l'accepter. Serait concerné sur la Creuse, Aubusson pour la cité de la tapisserie et le département, le conseil départemental, au titre du territoire complet. Bonjour. Les autres départements qui sont concernés par cette opération en vue de devenir capitale européenne de la culture, ce sont donc bien entendu le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Loire, la Haute-Loire, le Cantal, la Corrèze et la Creuse. Donc ce projet de capitale européenne de la culture repose sur le triple ancrage rural, industriel et universitaire. Souvent perçues comme une grande année de festivité, les capitales européennes de la culture sont bien plus qu'une seule programmation culturelle et artistique. Le titre est dans les faits adossé à une stratégie de long terme de la ville porteuse et de la zone avec laquelle elle est candidate. Le dossier doit faire apparaître les axes sur lesquels le territoire choisira de faire reposer son développement dans les années à venir et le donnera à voir à l'international. À ce titre, la candidature doit se construire à partir des spécificités locales. Les candidatures au titre de la capitale européenne de la culture sont des processus au long cours qui demandent un travail important préparatoire et font l'objet d'une sélection en plusieurs étapes. 6 ans avant l'année de la manifestation, 2 à 3 États européens sont désignés selon un calendrier préétabli et publient un appel à candidature par l'intermédiaire de leur ministère de la Culture. En 2022, ce sera ainsi au tour de la France et de la République tchèque. Donc il faut constituer un dossier. À l'issue de cette première phase, quelques villes restent en lice et sont invitées à soumettre un dossier beaucoup plus complet, ainsi qu'à organiser une visite de terrain d'une journée. Les capitales européennes de la culture sont officiellement désignées au plus tard 4 ans avant l'année effective. Cette période est nécessaire à la préparation du titre et de son programme afférent avec les différents territoires et acteurs concernés, mais aussi, et c'est un aspect essentiel, avec sa population. Donc l'équipe de la candidature pour Clermont Massif Central a débuté et elle se tient donc jusqu'au 1er décembre 2022, date à laquelle il faut déposer le dossier. Le travail porte sur une vision à long terme et sur l'approche territoriale globale de cette démarche, avec un soutien donc très large des collectivités du Massif Central. On espère pouvoir emporter l'adhésion du jury européen. Et puis donc être, je vous le disais tout à l'heure, beaucoup plus percutant que les candidatures de villes uniques. Il faut mettre en avant la qualité et l'originalité du concept de candidature, la programmation artistique et culturelle, expliquer le portage collectif des acteurs culturels, institutionnels et socio-économiques, organiser la concertation et la participation avec les publics les plus larges et surtout les publics éloignés de la culture. Voilà donc le concept qui se dessine autour du projet de Clermont-Ferrand 2028 s'articule selon 4 axes. Un cadre de vie, un axe qui a trait au cadre de vie et qui vise à lutter contre les inégalités sociales par le biais de la culture. Une identité forte basée sur nos paysages qui sont exceptionnels et puis sur notre entité géoculturelle. Une dialectique urbain-rural et puis un héritage ouvrier qu'on partage. Voilà, donc l'idée est effectivement de permettre à des collectivités qui souhaitent adhérer à ce projet de pouvoir s'impliquer au travers d'une cotisation, qui est une cotisation symbolique, puisque pour des villes comme la nôtre, elle est de 1 000 euros, et ce n'est qu'une fois, hein, ce n'est pas 1 000 euros par an. Ça permet de montrer qu'on est intéressé par ce projet global. L'adhésion, elle est de 1 000 euros. Par contre, elle ouvre droit à l'adhésion de tous les acteurs culturels liés à la collectivité par le fait de subvention éventuellement. Bien sûr, on a un siège à l'Assemblée 2028. Une inscription libre aux manufactures et à tous les ateliers de coécriture du projet pour les élus et les acteurs culturels. Et à ce titre, la semaine dernière, je me suis rendue à Clermont-Ferrand avec Hervé Herp pour commencer à positionner la Creuse comme étant un concepteur de projet pour le projet européen. Le droit de bénéficier sur le territoire de la collectivité dès cet été de la présence de dispositifs culturels itinérants. Donc par exemple, on aura sur la Creuse une exposition du musée mobile donc du centre Pompidou. Une valorisation de nos manifestations culturelles portées sur le territoire et puis surtout un accès immédiat à l'équipe et à l'ingénierie donc de Clermont-Ferrand pour nous aider à proposer des projets et à les labelliser pour l'année 2028 et donc à les faire financer. Voilà. Donc on a déjà 2 niveaux de coopération qui peuvent être envisagés. Une labellisation des actions et des manifestations culturelles dont la collectivité est productrice, coproductrice ou partenaire. Et la co-création ou la coproduction d'un projet nouveau et spécifique à l'année 2028. Avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'on pourra bénéficier de toute une ingénierie culturelle, de toutes les relations nécessaires au niveau européen et de l'aide au montage financier. Alors, si vous acceptez que nous adhérions à ce projet de capitale européenne de la culture, dont je pense que la Creuse tirera le plus grand bénéfice, nous commençons déjà à réfléchir avec RVEP à un projet innovant que, bien entendu, nous vous proposerons à un conseil municipal, soit en juin, soit en septembre, pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on pourrait proposer au titre de la capitale européenne de la culture. Et bien entendu, tout ça fera l'objet d'études et de travail dans le cadre de notre commission idoine. Voilà, c'est un gros projet. Il est compliqué à expliquer puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, mais je pense que c'était vraiment une très belle inspiration de pouvoir sortir des grandes villes et des grandes métropoles et de pouvoir penser qu'un territoire pouvait postuler à une étiquette de ce type qui ouvre à des financements très importants et qui permettent de mettre en valeur la culture de nos territoires, même des territoires les plus ruraux qui ne sont jamais mis en avant sur le plan européen. Voilà, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe au vote sur ce... Monsieur Vernier.
Non, c'est pas une question, c'est juste par rapport à l'interrogation que j'avais eue lors de la commission mixte sur la position de la région Nouvelle-Aquitaine. Comme je suis un lecteur attentif d'un certain nombre d'articles, tous mes doutes ont été levés. J'avais dit que je craignais qu'il y ait une confrontation sur les subventionnements. J'ai vu avec plaisir que la région Limousin... Lapsus significatif, que la région Nouvelle-Aquitaine soutenait ce projet, donc je n'ai plus aucune, je n'ai pas de réserve, hein, comme je l'avais dit, mais je trouve que c'est plus clair et plus pratique pour travailler sur ce sujet.
Les régions, bien sûr, sur lesquelles s'implantaient des territoires qui postulaient à cette opération ont été interrogées. Effectivement, la région Nouvelle-Aquitaine, pour la Creuse et la Corrèze, puisque c'est les deux seuls départements qui adhèrent, soutient le projet. Et les financements qu'on serait à même de demander sont sur des projets qui vont rentrer dans le cadre de cette capitale européenne de la culture, donc qui ne viendront pas se percuter, voilà, avec nos projets culturels, courants, classiques, ce qu'on pourra mettre en place sur le territoire d'ici là, ça ne va pas nous enlever des subventions, mais ça sera des financements différents pour des projets différents. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Bien, donc je vous propose de soutenir officiellement la candidature Clermont-Massif Central au titre de la capitale européenne de la culture, d'adhérer à l'association Clermont-Massif Central 2028 en tant que membre associé à hauteur de 1 000 euros, donc d'engager la contribution de la ville à cette hauteur et d'inscrire les crédits nécessaires à cette opération et de l'autoriser à signer tous les documents relatifs à cette opération. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Le deuxième rapport est sur la dénomination des bâtiments publics. Alors, on a donné des noms à certains équipements publics sans faire passer ces propositions devant le conseil municipal. On a eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, mais on n'a jamais pris de délibération spécifique sur ces dénominations, donc mieux vaut tard que jamais. Donc je vous propose sur ce rapport de la dénomination d'abord de la salle Omnisport qui a été inaugurée en juin 2019 et donc qui s'appelle la salle Omnisport Léo Lagrange, d'accepter donc que le boulodrome s'appelle officiellement boulodrome Michel Ollet et que l'IRFJS porte maintenant le nom de Tremplin Nature. Voilà, donc ces trois dénominations doivent être validées par le conseil municipal si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? On le fait un petit peu après la bataille, mais on sera vigilant sur les prochaines dénominations. Alors, j'en profite avant qu'on passe au vote pour faire une petite digression. On va devoir donner un nom de rue à une toute petite rue qui part de l'héliport et qui va jusqu'à la maison du docteur Chattat en passant devant l'IME de Granché. Cette rue n'a pas de nom et pour l'installation de la fibre, il y a obligation d'avoir un nom de rue. Donc on va nous demander de baptiser ce petit bout de rue Alors, je souhaiterais que vous réfléchissiez avec nous à au nom qu'on pourrait donner à ce petit nom de rue. Donc, moi, j'hésitais entre deux choses. C'était peut-être le monsieur Labinde, qui nous a fait un legs considérable, qui va beaucoup nous aider. Ou alors, on avait parlé à une époque aussi de pouvoir donner un nom de femme à une rue, parce qu'on n'a pas énormément de noms de rues qui portent un nom de femme. Et nous avons deux creusoises qui sont des figures de la résistance. Marie Huguet, dont le mari travaillait au cimetière et qui se servait du cimetière pour faire passer tous les messages de la résistance. Et puis Marie-Madeleine Fourcade, qui était chef du réseau Alliance, qui est un réseau très actif dans la résistance creusoise. Alors voilà, c'est des hypothèses. Vous pouvez avoir d'autres idées, mais peut-être qu'on pourrait au prochain... Oui, Michel.
Non, c'est pas du tout pour contredire, mais il y a à Guéret un groupe qu'on consulte pour le baptême des rues et qui est présidé par Guy Abizou. Donc je pense qu'il serait de bon ton de ne pas le dissoudre. C'est un groupe de sages, d'historiens, voilà, et qui faisait plutôt lui-même les propositions, mais ce n'est pas obligatoire. Mais encore une fois, il serait dommage qu'on oublie ce groupe qui avait été constitué pour donner, je veux dire, une indépendance au conseil municipal, pour que ça ne soit pas... Et qui, sur les c'est pas les propositions, sont toutes bonnes, mais de consulter au moins le groupe Baptême des Rues, il existe, hein, on a les noms. Si on les a pas, c'est Guy Abizou qui le préside.
C'est au titre de la Société des sciences ou c'est un...
Non, c'est un groupe qui avait été constitué à une époque par le conseil municipal il y a longtemps et qui s'est renouvelé, mais je pense que c'est bien qu'on consulte.
Oui, bien sûr.
Et qui fait aussi d'ailleurs lui-même, qui peut avoir, Madame le maire, des propositions aussi. À faire, bien sûr, le conseil municipal sera souverain pour décider.
Très bien, tout le monde est d'accord pour qu'on fasse comme ça. Alors donc, sur nos trois bâtiments, acceptez-vous ces trois dénominations et puis m'habilitez-vous à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de cette délibération. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
Non, mais juste, si vous permettez un clin d'œil pour saluer Michel Ollet, qui était longtemps dirigeant de l'Entente guérétoise, alors qu'il était rugbyman, mais qui a passé beaucoup de temps au service du club de foot. Donc c'est une occasion pour lui faire un petit coucou posthume.
Et puis,
salarié de la ville de Guéret.
Agent de la ville aussi, oui, bien sûr. Je vous remercie. Le troisième rapport, donc, concerne l'adhésion de la commune à la société coopérative d'intérêt collectif Maison Familiale Creusoise. Donc la société civile professionnelle d'HLM, la Maison Familiale Creusoise, dont le siège est 21 avenue de la Sénatorerie à Guéret, a décidé de se transformer en société coopérative d'intérêt collectif, SCIP, d'HLM, et ce à compter du mois d'octobre 2021. Alors, la bonne santé financière de la société n'est absolument pas remise en cause. Par contre, la loi donc, du 23 novembre 2018, qu'on appelle la loi Élan, a donné une obligation donc, pour un organisme de logement locatif social n'atteignant pas une taille qui lui permette d'assurer l'ensemble des fonctions stratégiques de manière autonome, de rejoindre un groupe pour effectivement mutualiser ses fonctions stratégiques. Donc la société La Maison Familiale Creusoise avait donc l'obligation, vu sa taille, de se regrouper avec des partenaires pour atteindre cette taille critique. La société exerce un service d'intérêt économique général, à savoir une activité dans le domaine de l'immobilier sous plafond de prix, destinée à des personnes physiques sous plafond de ressources. Donc son activité intègre le champ de compétences des coopératives HLM, c'est-à-dire la construction ou l'acquisition et l'amélioration de bâtiments en vue d'une gestion locative sociale et le syndic de copropriété. La société Maison Familiale Creusoise a vocation à intervenir sur la totalité du département de la Creuse. Elle conserve les objectifs qui étaient les siens sous son ancien statut, à savoir la production de logements sociaux de bonne qualité avec proposition de loyers adaptés aux revenus des locataires et accompagnement de ceux-ci s'ils ont des difficultés. C'est donc un véritable acteur de l'économie sociale et solidaire. Donc au titre de sa transformation et de son utilité sur le territoire, il a été proposé à la ville de Guéret d'adhérer à cette SCIC. Elle entrerait en tant qu'associée dans la catégorie personnes publiques et leurs groupements. L'intérêt pour la ville de Guéret serait de participer à la gouvernance de cette société et ainsi d'être en mesure de proposer des projets de logement social, location ou accession à la propriété, dans le cœur de ville. C'est surtout ça notre préoccupation première. Ces dernières années, d'ailleurs, la maison familiale creusoise est notamment intervenue sur la commune de Guéret, boulevard Guillaumin, place du conventionnel Huguet, rue de l'Église, pour restaurer des bâtiments et en tenant toujours compte de notre charte de l'élégance urbaine. Actuellement, des discussions sont en cours pour d'autres projets situés sur le cœur de ville. Donc, en intégrant cette structure, la ville de Guéret pourrait disposer d'un représentant titulaire, c'est-à-dire une voix. Il y a une participation au capital. Donc, il est proposé de souscrire des parts dans le capital de la société. Aucune limite, aucune obligation ne nous était faite. Le montant nominal des parts est fixé à 15,24 euros. Donc, on a essayé de trouver un curseur et on a pris celui de l'agglo qui a souscrit 100 parts en se disant qu'on représentait à peu près la moitié de l'agglo. On vous propose de souscrire 50 parts, ce qui nous fait 762 euros de capital pour intégrer donc cette coopérative. Voilà. Alors, lors de la commission mixte, il nous avait été posé des questions sur les autres partenaires. Donc, d'abord savoir que les actionnaires ne sont pas obligatoirement administrateurs. Pour les collectivités, on retrouve donc comme administrateur le département, l'agglo et la mairie. Et le département, c'est le principal actionnaire. Les personnes physiques qui représentent le collège aussi des administrateurs, ce sont des anciens locataires qui s'investissent dans la coopérative. Il y a des salariés aussi qui siègent au conseil d'administration. En ce qui concerne le groupement de HLM, la maison familiale est groupée avec les HLM du Massif Central, d'Annecy et de Paris. Voilà. Et tous les locataires ont une action. Quand on loue un appartement à la maison familiale, on a forcément une action et on devient donc actionnaire de la coopérative. Donc voilà. Alors on avait fait attention. Monsieur Vernier nous avait interrogé sur y aurait-il un conflit d'intérêt entre le fait qu'on se porte garantie d'emprunt comme on l'est pour Creusalis. En fait, vérification faite, non, il n'y a pas de conflit d'intérêt. D'ailleurs, la présidence de Creusalis est assurée par le conseil départemental. Voilà. Donc ni l'agglo, ni le département, ni nous n'avons noté le moindre risque juridique à adhérer à cette coopérative. Avez-vous des remarques ou des questions? Non? Donc, eh bien, je vous propose d'autoriser la ville à adhérer à cette société coopérative, de souscrire au titre du capital pour 50 parts, soit 762 euros, donc de bien sûr proposer notre candidature comme membre du conseil d'administration. Alors, il faut qu'on désigne notre représentant. Donc, si vous souhaitez recourir au vote à bulletin secret, on peut le faire. Sinon, je vous propose ma candidature pour siéger au sein de cette instance. Et voilà, et de pouvoir signer tous les actes et les documents liés à ce sujet. Alors, on va peut-être procéder par ordre. Déjà, sur l'autorisation d'adhérer, est-ce qu'il y a des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Bien. Sur la souscription pour 50 parts de capital, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Donc, porter notre candidature, je pense que ça va de soi. Sur le fait que je puisse participer à ce conseil d'administration et représenter la ville, souhaitez-vous, y a-t-il des personnes qui souhaitent un vote à bulletin secret? Sinon, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, nous allons passer. Je souhaiterais savoir si pour le projet de la piscine, on vous a mis en début de conseil municipal une délibération sur table dont je vais vous exposer la teneur, mais sur le principe d'accepter de voir, et je vous expliquais pourquoi tout à l'heure on a dû la faire en urgence. Est-ce que vous avez une opposition au fait qu'on puisse voir cette délibération sur table quand on va parler de la piscine? Non? Je vous remercie. Alors, le premier dossier, c'est donc nos nouvelles perspectives en matière de réhabilitation de la piscine municipale. Alors, pour vous remettre juste le contexte, en deux mots, notre piscine en état de péril imminent, fermée depuis octobre 2020, et un dossier de réparation qui était prêt pour que l'équipement tienne environ 5 à 6 ans. Ça a été validé en conseil municipal, envoyé à la préfecture, la région, le département, les financements étaient acquis, on était prêt à démarrer. À ce moment-là, on a quand même partagé des questionnements, d'abord sur le coût qui avait progressé de 1,5 million à 3 millions pour un équipement qui devait trouver un autre usage à court terme. Quand le centre acolydique aurait été ouvert, il fallait qu'on trouve un nouvel usage à ce bâtiment pour lequel d'emblée on n'avait pas un besoin évident et avec surtout des travaux supplémentaires importants pour le rendre à un nouvel usage puisqu'on avait des bassins qu'il fallait combler, voire enlever, avec le risque d'abîmer la structure neuve qu'on avait faite et des frais de fonctionnement pour une nouvelle structure. Donc je ne suis pas sûre que la municipalité dans 4, 5 ou 6 ans aura les moyens d'avoir des frais de fonctionnement supplémentaires. Deux équipements qui risquaient d'être en travaux en même temps, à même destination, sur le même territoire. Des sommes engagées pour les deux projets qui devenaient très lourdes pour notre territoire et nos contribuables, à savoir à minima 11 millions d'euros hors taxes pour le centre acolydique et 3 millions d'euros TTC pour nous. Et puis des financeurs qui commençaient vraiment à nous interroger en disant « Est-ce que vous êtes sûr et est-ce qu'on va pouvoir tout financer ?» Donc, j'ai interrogé les vice-présidents de l'agglo, j'ai interrogé le conseil communautaire, j'ai interrogé le conseil municipal la dernière fois qu'on a voté cette délibération, et j'ai aussi interrogé les financeurs pour qu'on n'y ait pas de surprise au moment où le projet de l'agglo sortirait, puisque le nôtre était de toute façon financé. Alors, à la suite de toutes ces interrogations, on a pu réfléchir ensemble, avant d'engager les travaux de rénovation, à ce qui était la meilleure solution pour notre territoire. La première solution, ça a été, de la part de l'agglo, de dire « on renonce au centre aqualudique et on renonce à la compétence ». Ce qui nous a semblé totalement inentendable, du fait de la dimension communautaire de cet équipement, qui n'est quand même pas, je pense, à remettre en cause. Donc à ce moment-là, moi j'ai exprimé la proposition inverse, à savoir, eh bien, la ville renonce aux travaux de consolidation à condition que l'agglo soit prête à démarrer tout de suite le projet et les études pour la nouvelle piscine. Ce qui semblait le cas, puisque quand le budget de l'agglo a été présenté, c'était un budget qui était assaini, où un plan pluriannuel d'investissement était clairement établi, avec le projet unique pour la mandature du centre aqualudique. Donc, il nous semblait logique de pouvoir aller dans cette configuration-là. On a fait la proposition à la conférence des maires de l'agglo. Et le conseil communautaire par la suite, les deux ont validé cette proposition. On arrête la réhabilitation actuelle de la piscine et on porte ensemble un projet d'intérêt communautaire en assumant de part et d'autre notre rôle aussi, je pense, d'élus soucieux des finances publiques. Ce qui n'est pas un rôle facile à tenir, ni pour le président de l'agglo, ni pour moi-même, mais ce qui nous semblait quand même aller dans le sens du raisonnable. Alors, ce qu'on espère ici, c'est que la nouvelle piscine pourra se faire à la place de l'ancienne, qui a des tas d'avantages. On a le terrain, les raccordements au réseau de chaleur sont faits, on est en pleine zone d'activité, en plein centre-ville, avec toute l'attractivité que ça peut apporter pour le centre-ville. Et surtout, on s'est entendu avec l'agglo pour que la déconstruction de la piscine soit intégrée dans le nouveau projet de centre aqualudique. Ce qui fait qu'on a un terrain vierge aussi qui peut nous permettre d'envisager le centre aqualudique à cet endroit-là. Si les deux projets s'étaient faits de façon concomitante, on rayait de la carte le centre-ville pour le centre aqualudique. La seule interrogation, c'est l'étude des sols. Il faut qu'on soit sûr que le sol de l'implantation de la piscine actuelle est en capacité de tenir un centre aqualudique. Alors, la BMI tient bien. Je pense que les normes aussi de construction ont évolué, mais on veut être absolument sûr qu'on ne fait pas courir de risque aux futures générations de nageurs et d'élus sur un terrain qui ne serait pas fiable. Donc, ce qui a débuté, c'est l'analyse des sols sur le sol actuel de la piscine et sur le terrain de Beau Soleil que l'agglo avait ciblé comme étant un potentiel terrain d'implantation du centre aqualudique. terrain de Beausoleil qui n'était pas celui à l'origine, qui n'était pas où l'acheteur, le vendeur ne voulait pas vendre, mais qui est un terrain qui se trouve un petit peu au-dessus, près de du quartier des Italiens, la cabane des Italiens. Où là, par contre, la famille est tout à fait vendeuse. Voilà. Donc, voilà où on en est. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vous propose une délibération pour envisager cette nouvelle perspective et donc annuler la délibération qu'on avait prise l'autre fois en désespoir de cause en disant bah, il faut au moins qu'on réhabilite la piscine si on n'a pas d'autre perspective. Et vous dire qu'en parallèle, et c'est l'objet de la délibération d'après, on s'est engagé à mettre en place un ou des bassins d'apprentissage pour que les enfants puissent apprendre à nager dès la rentrée et qu'on remplisse nos obligations vis-à-vis de nos scolaires, qui est l'obligation d'apprendre, d'aller sur l'apprentissage de la natation. Voilà. Et parallèlement, on a engagé un travail avec l'AGLO sur le transfert des compétences pour que ce transfert soit équitable pour nos deux collectivités. Donc voilà sur cette nouvelle perspective. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Vernier ?
Alors, moi je me félicite de la décision qui a été prise, comme je l'ai dit l'autre jour. Elle est raisonnable, et c'est bien, c'est comme ça qu'il faut avancer. Mais effectivement, j'ai appris dans la semaine que c'était le terrain sur la gauche en descendant, c'est-à-dire là où il y a les baraquements, les anciens baraquements de nos amis italiens qui ont fui la dictature et qui sont venus là, et pas de l'autre côté, ce qui sera plus simple, parce que là, ce n'est pas une terre agricole. Enfin, plus simple, si l'association donne son accord et si on les ménage pour garder l'histoire, le souvenir, etc. Moi, ce qui m'inquiète dans ce dossier, sur la méthode et puis tout, c'est qu'il faut qu'on soit sûr. Ça serait mieux qu'on puisse faire sur place, parce que la déconstruction serait comprise dans le prix. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que la CLACT ne s'est toujours pas prononcée pour l'ensemble des élus sur les charges de fonctionnement, évaluées à 800 000 euros, ce qui me semble vraiment énorme, et que tant que la CLACT ne sera pas d'accord, ou ne sera pas mise d'accord sur le plan financier, et notamment sur ce qui a été dit, il ne peut pas y avoir de construction possible. La ville de Guéret ne pourra pas, je le regrette, ça voudrait dire qu'elle est riche, mais ne pourra pas supporter seule les frais de fonctionnement. Et j'entends, je sais que des élus d'autres communes ne sont pas prêts à accepter que leur dotation de compensation puisse diminuer. Donc ce problème n'est pas réglé. Et je redemande qu'il y ait une explication claire, technique, qui soit donnée au conseil municipal dans son entier, puisque pour ceux qui ne siègent pas à l'agglomération, bon, peut-être peut-on dire c'est parce qu'ils travaillent mal avec leur groupe, mais en tous les cas, aucune information, sauf ce qu'on apprend ici et là. Par exemple, le terrain des Italiens, je l'ai appris cette semaine, je ne savais pas que c'était celui-là. Je rappelle aussi que la position qui était la nôtre, c'était d'utiliser au cas où ça ne puisse pas se faire là-bas, le terrain de l'ancien abattoir, qui est un terrain facilement déconstructible, qui ne coûtera pas cher, qui est situé aussi à côté de Courtille, parce que là où est le terrain des Italiens, il y a juste à côté des maisons, des gens qui habitent, et je crains bien que voir arriver un centre aqualudique juste à côté de chez soi, mitoyen avec sa maison, ça crée quelques soucis. Voilà, je veux redire tout ça. C'est pas pour retarder le projet, hein. Moi, je soutiens l'idée de qui a été énoncée là. Mais je répète, la CLACT ne s'est pas prononcée. Et ça m'inquiète, parce que je sais que ça ne sera pas facile. Et ensuite, bien s'assurer que si les vendeurs sont vendeurs, ça je comprends, mais les riverains auront aussi leur mot à dire. Parce que quand on avait évoqué le parking actuel, parce qu'il y avait aussi cette situation possible, du parking actuel de la piscine en déplaçant le parking, on avait eu tout de suite une réaction des résidents du quartier. Donc voilà, je redis ça pour que ça soit dit, redit, mais priorité numéro un, régler avec les élus de l'agglomération sur la base de 800 000 euros si on veut, moi j'en sais rien, mais bon. C'est comme ça, parce que les communes rurales n'ont jamais effectivement participé, enfin rurales, partenaires n'ont pas participé au déficit et tout, et se disent, après tout, nous, on n'était pas dans le coup, on ne va pas maintenant nous imputer ces choses-là. Et je sais que c'est une idée qui est forte chez certains d'entre eux et que ce doit être adopté à l'unanimité. Donc j'ai encore des doutes.
Alors le projet,
pas sur le projet, hein.
Oui, oui. Le projet centre aqualudique a été voté à l'unanimité à la COM d'Aglo.
Oui, mais le projet, oui, mais c'est le financement qui...
Donc, la CLECT, on est en train donc d'y travailler. Donc, ce qu'on peut vous proposer, puisqu'on a émis l'idée que M. Barbert, par exemple, qui dirige le groupe piscine à la COM d'Aglo, puisse venir au conseil municipal de juin, par exemple, nous dire...
Il appartient au président de l'Aglo de décider qui vient. C'est lui qui préside l'Aglo et qui doit avoir l'autorité pour faire ça. Mais... je suis d'accord sur le principe qu'on vient de nous expliquer.
Comme je pense que d'autres communes le demanderont certainement. Mais bon, il faut qu'on avance encore un petit peu. Ce mois-ci, on a prévu des réunions sur la CLECT. Donc, ça nous permettra d'avoir des éléments un peu plus probants à venir vous apporter donc, sur le prochain conseil municipal. Donc, on a programmé cette réunion et je vais demander donc au président Correa d'autoriser... Monsieur Barbert, je pense que c'est le mieux placé parce qu'il, lui, a une bonne maîtrise du projet et du coût du projet.
Moi, je ne choisis pas, voilà. Marie-Françoise, pardon, je ne choisis pas la personne. Non, il appartient au président
verra,
de décider. Mais j'aimerais bien que cette réunion ait lieu à la rentrée, non, ou je ne sais pas quand.
C'est important puisque ça nous engage effectivement, ça engage la municipalité de Guéret sur les prochains frais de fonctionnement. Et il est exact que les maires sont inquiets par rapport à ses frais et par rapport au dimensionnement de l'équipement qui va générer ses frais.
Moi, je veux comprendre ce que veut dire aussi 800 000 euros. Parce que, est-ce qu'il y a les intérêts d'emprunt? Est-ce qu'il y a les amortissements?
Il y a les intérêts d'emprunt qui
étaient compris. Je ne sais pas comment sont comptés les amortissements, oui. Sur combien de temps, sur... Et ça, c'est quand même quelque chose de très important.
Marie?
Oui.
Après, mais je ne voudrais pas que le débat s'éternise dessus, parce qu'on y travaille dessus. Une CLECT, c'est sur un transfert de charges et de compétences. Donc nous, ce qu'on transfère à la base, c'est la compétence d'une piscine, pas la compétence d'un centre aqualudique.
Non, mais je parle du fonctionnement. Hein.
D'accord, mais on est sur le fonctionnement. Donc c'est sur le prix des dépenses qui ont été constatées au cours des dernières années que se fera le transfert. Et c'est aussi des charges que nous ne payera plus sur le budget. Mais il faut pas penser que la CLECT va parler du futur déficit du centre aqualudique.
Ah si. Forcément,
non. Non, elle va parler du transfert de la piscine.
Non, mais...
pas du transfert du centre aqualudique.
Non.
C'est une autre chose.
Non. Forcément les deux. La ville de Guéret ne va pas supporter toute seule la prochaine fois les frais de fonctionnement. Il faut bien qu'il y ait une évaluation. Oui, mais on ne peut pas évaluer sur les communes, elles ne sont pas payées. Donc, à mon avis, il y a du boulot.
Oui. Juste un mot pour dire que il faudrait perdre l'habitude de mettre la charrue avant les bœufs. Me semble-t-il, il faudrait vraiment avoir une idée très claire du dimensionnement de ce projet, de vraiment la façon dont on veut toucher le public concerné, par exemple les scolaires, par exemple les clubs de natation, etc., et de le dimensionner, même si la situation financière semble, je dis bien semble, assainie au niveau de l'agglo, j'aimerais quand même qu'on soit extrêmement prudent sur le dimensionnement de ce nouvel équipement et les charges de fonctionnement qui seront en conséquence, sachant que des choses qui avaient disparu du paysage de discussion depuis des mois, à savoir les espaces bien-être, etc., sont réapparus subitement. Et chacun sait bien que, au-delà de l'envie qu'on pourrait avoir de munir cet équipement de tout cela, derrière, il y aura des charges de fonctionnement énormes. Et est-ce qu'il y aura un public suffisant avec un pouvoir d'achat suffisant pour remplir ces espaces? Alors, je pense que la CLECT, en l'occurrence, et elle doit se réunir effectivement, mais on ne crée pas une CLECT à partir de rien. Il faudrait déjà avoir un projet qui soit dimensionné. Et ça, c'est peut-être ce qui manque le plus actuellement.
Monsieur Lascaux.
Oui, juste. C'est bon. Oui. Juste ben, pour vous préciser un petit peu notre position ce soir, de notre groupe, enfin notre mini-groupe ce soir, pardon, parce qu'on n'est pas très nombreux, mais bon. Voilà, je voulais juste vous communiquer. Nous communiquer cette, info, enfin, cette intervention. Donc, Madame la maire, Madame et Messieurs les élus, notre groupe va voter favorablement car nous approuvons l'objet et la logique intrinsèque de cette délibération. Déjà. Dans le droit fil de ce qui a été évoqué conjointement avec la communauté du Grand Guéret, annuler les travaux qui étaient envisagés révèle d'un raisonnement responsable. Cela nous semble aller dans le sens de la cohérence des actions des deux organismes publics que sont la ville et l'agglo. Toutefois, nous pensons également que cette annulation de nos travaux, si elle va dans le sens d'une rationalisation de nos actions communes, est aussi un signal envoyé à nos concitoyens quant à la bonne gestion des deniers publics dont sont dépositaires la commune comme l'agglomération. Nous savons tous dans l'état actuel du plan de financement, il manquait environ 400 000 euros pour refaire la piscine, notamment la participation demandée.